Alors, les trois tueurs d'intimité. On a noté la fatigue, puisque la bien-aimée s'endort avant que son bien-aimé arrive. Le travail. L'influence des autres. Le manque d'empressement. Oui, mais on a voulu dire ça plus gentiment. Et le fait de ne pas être en phase en même temps. Et c'est vrai que du coup, on a noté qu'il y avait un problème de disponibilité en même temps, ou même, enfin, voilà, de disponibilité d'esprit, de cœur, de temps. Ou on continue. Qu'est-ce qui se passe quand l'intimité est gaspillée? Il y a de la souffrance, puisqu'elle nous dit qu'elle est malade d'amour. Il y a une absence de relation. On a quand même noté que ça n'empêchait pas l'amour, puisque malgré ce qui se passe... C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se voir. Elle arrive quand même à faire l'éloge de son bien-aimé. Et on a noté aussi que ça met aussi en danger et qu'il y avait quelque part une tentation possible avec l'extérieur. Qu'est-ce qui permet à l'intimité de revenir? Le souvenir de notre amour pour l'autre, pourquoi on l'aime.
Comment la Bible appelle ça? Qui a dit? Le premier amour. Le souvenir du premier amour.
Il y a l'aide de l'entourage. Elle est quand même soutenue par... du monde autour d'elle. La profondeur de l'amour éprouvé, qui aide aussi à tenir le coup.
La profondeur.
De l'amour. Et l'absence de colère.
Alors, qu'est-ce que je vais sortir de mon fouillis de notes? Alors, Éphésiens, donc, nous, on a conclu que l'idée force, c'était qu'il fallait de la volonté pour développer sa vie spirituelle, la vie dans l'esprit, pour comprendre la volonté du Seigneur. Il fallait chercher dans la Bible. Prendre de la distance avec ce qu'on vit. Je vais trop vite peut-être.
Non.
Voilà, il fallait être vigilant pour pouvoir ensuite, ce qui est plus exprimé dans Éphésiens 4, pour pouvoir en plus, ensuite être plus, pouvoir régler les problèmes, les conflits dans le couple, ne pas rester sur sa colère, avoir une colère limitée dans le temps et qui soit réglée, quoi, qui soit suivie d'une réconciliation. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit encore ? Voilà, car si on reste sur sa colère, on attriste l'Esprit Saint. La colère coupe la relation à Dieu.
Bon, il y a d'autres choses, mais...
Voilà. C'est...
Acheter le temps.
On remercie le groupe 1, parce qu'ils ont déjà dit beaucoup de choses. Oui, c'était le même texte. Nous, on avait relevé des difficultés, en fait. On a réussi quand même à se mettre d'accord, avec comme premier ennemi l'individualisme. Puisqu'il semblait que le mari était allé s'occuper de son côté. L'individualisme qui conduit à des activités différentes et qui finit par éloigner les gens. La réaction de rancœur, oui. La rancœur, puisqu'on avait l'impression qu'elle lui faisait un peu payer de rentrer si tard et elle tardait à se lever. L'impatience de son côté, puisque lui, il n'attend pas qu'elle se lève et repart avant qu'elle ait tourné la poignée. Et l'impatience, du coup, conduit au manque... Voilà. Le manque d'écoute, puisqu'ils se parlent, mais l'un n'entend pas l'autre. Enfin, elle parle, elle n'entend pas. Lui, il parle, elle n'entend pas. L'indisponibilité. Ça se recoupe un peu, mais c'est vrai qu'elle n'était pas disponible à ce moment-là. Le fait de considérer que la relation est acquise. Enfin, vivre sur des acquis. Il rentre, il pense qu'il n'y aura pas de problème, elle sera disponible, puisque c'est comme ça d'habitude. Et elle, elle est dans la routine, elle fait comme si c'était comme d'habitude. elle s'est préparée sans réaliser que ce serait peut-être différent. Voilà, c'est aussi un danger. Oh, ça a été long pour démarrer, mais merci pour votre intervention. Ça nous a aidé. Et la passivité, puisque oui, elle n'est pas bien, enfin, manque de réactivité. Voilà pour les ennemis. Alors, c'était assez similaire au premier groupe en ce qui concerne les conséquences, l'éloignement. Donc une perte dans la relation, hein. Une mise en danger, puisqu'elle a quand même souffert entre les mains des soldats dans sa recherche de son conjoint. Donc on avait extrapolé en disant bon, devant un espoir, enfin une relation déçue, il y avait des risques à chercher des compensations ou autre chose. Et enfin une souffrance morale. Vous êtes d'accord? J'ai trahi personne. Le retour, donc comment faire pour que la relation revienne? Donc repenser au début de la relation. Puisqu'on voit quand elle parle de son bien-aimé, elle repense à lui presque en l'idéalisant. Alors on avait du mal à préciser, mais donc repenser au début de relation en acceptant les défauts, finalement. C'est pas faire comme s'il n'avait pas de défauts, on les accepte. On en est conscient, on a découvert qu'il en avait, mais ou qu'elle en avait. Et considérer même que ça peut être une qualité. C'est ce que j'ai plus de mal à le retransmettre, mais oui. Elle garde que des qualités. C'est lui qui le dit. Mettre en œuvre, enfin oui, réagir. Il y a besoin d'une réaction, donc mettre en œuvre, réagir pour chercher cette, enfin rétablir cette relation, puisqu'on la voit partir chercher. Elle demande même de l'aide aux filles de Jérusalem. Alors, redonner ou maintenir la confiance. Donc finalement, on a décidé maintenir, mais on avait discuté là-dessus. Et enfin, pardonner. Merci.
Je vais essayer de vous donner une interprétation personnelle de tout ça. Tout d'abord, vous avez remarqué, c'est des ordres. Et des ordres qui sont un peu comme « faites ceci, mais… » Non, « ne faites pas ceci, mais faites ceci. »« Ne faites pas ceci, mais faites ceci. » Et ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Donc on peut se retrouver un peu comme les 10 commandements, hein, à se dire, il faut que je fasse ci, il faut pas que je fasse ça. Et donc, on avance. Alors, bien sûr, on a réfléchi à propos de toutes ces choses, dire la vérité, contrôler sa colère, mais on était un peu dans cette démarche. Et c'est progressivement que on a pris un petit peu du recul et on retombe sur ce que Nathalie a dit, à savoir que bien qu'on parte, fais ceci, ne faites pas ceci, c'est en cherchant le cœur de Dieu que l'on arrive à comprendre la volonté de Dieu dans une circonstance. Quand on est dans cette attitude d'écouter Dieu, eh bien, cela nous permet de comprendre quelle doit être la communication dans le couple. La communication dans le couple, c'était les versets 25 à 29, qui parlent justement de ne pas mentir, qui parlent de ne pas blesser l'autre, dans la colère. En somme, c'est grâce à l'Esprit Saint, grâce justement à cette connaissance du cœur de Dieu, qu'on vit comme un sage et non un insensé ou un charnel. Et que ceci nous aide. Et on a trouvé que cet état d'esprit était important dans le comportement, nous aide à être gracieux l'un envers l'autre. Voilà, je résume.
Alors, juste une question, chercher le cœur de Dieu, c'est-à-dire
on est dans un truc au travail, n'importe où, finalement Dieu, là, qu'est-ce qu'il veut, comment il voudrait que je sois avec l'autre, 1 Corinthiens 13, donc, finalement, puisque c'est des relations de couple, on peut appliquer 1 Corinthiens 13, et donc, c'est tout le travail de notre vie de mieux connaître la pensée de Dieu pour être transformé grâce à cette pensée, et c'est en mettant ça en premier qu'on arrive peut-être à mieux communiquer et à mieux vivre avec l'autre.
Ça,
je ne
pas. Eh bien, moi, je trouve formidable. Vraiment, là, on a vraiment de belles pensées, de belles pistes, de belles idées. Oui, pardon. De belles idées pour progresser dans notre vie de couple. Hein. Et surtout, dans la logique dans laquelle nous sommes, permettre à son couple de durer. Vivre heureux avec des désirs insatisfaits, parce que satisfaire tous nos désirs n'est pas quelque chose de faisable, ici-bas. Ça, il faudra qu'on fasse aussi le deuil de ça. Alors, je vais passer là-dessus, parce que je pense que c'est... je vais quand même dire deux mots. Alors là, je vais reprendre d'abord le Cantique des Cantiques, et après je reprendrai Éphésiens. Alors, les personnages du Cantique des Cantiques, donc, j'aurais pu vous donner effectivement cela comme grille de lecture tout à l'heure, mais ça vous aurait enfoncé des portes ouvertes, et je pense que vous avez bien quand même perçu le cœur de la personnalité de chacun dans l'exercice que vous avez fait. Donc, les personnages du Cantique des Cantiques, il y a d'abord les amoureux. Les amoureux n'aspirent qu'à l'intimité et ne pensent que l'un à l'autre. Ça, c'est quand même une des caractéristiques des amoureux de ce beau livre. Les frères de la Sulamite, ce sont les représentants de l'ordre familial. Et conformément à la coutume, eh bien, ces frères s'érigent en gardiens de leur jeune sœur. Et on voit ça tout le long du livre. Salomon et le jeune berger. Alors, il y a des commentateurs qui se posent la question, est-ce qu'il s'agit d'une seule et même personne ? Est-ce qu'il s'agit du Salomon de l'histoire ? Est-ce que le jeune berger et Salomon sont rivaux ? Ou est-ce que l'humble berger dont il est question est un peu, en quelque sorte, transfiguré par l'amour de la Sulamite, et cet amour transforme cet humble berger en roi Salomon, le roi le plus glorieux d'Israël Bon, quelques hésitations. Les filles de Jérusalem. Alors, elles sont les admiratrices de Salomon, admiratrices de son faste. Elles ont le teint clair. Vous vous rappelez que la Sulamite est une noiraude, comme dit le début. Et le teint clair, c'est le canon du beauté de l'époque. Donc, c'est important aussi d'avoir ça en tête. Et alors, les gardes, les fameux gardes, eux, ce sont les serviteurs de l'ordre. Et les gardes sont obtus et brutaux. En tout cas pas ouvert à la poésie, et qui symbolise l'insensibilité, la violence, voire l'agression. Parce que dans le récit des gardes, il y a une agression. D'accord. Donc, ça c'est un peu, bien sûr, des clés de lecture. Et comme je l'ai dit, vous savez, pendant... le Cantique des Cantiques, c'est l'illustration, c'est vrai, de l'amour de Dieu pour son peuple.
De plus en plus de commentateurs aujourd'hui mettent cette interprétation allégorique au second plan, alors qu'elle était au premier plan avant. Et la plupart des commentateurs y voient l'histoire d'un couple, d'abord d'un couple, et qui racontent leurs émois, qui racontent leur rupture, qui racontent leur amour, qui racontent leur sexualité. Et la lecture de ce livre, à la lecture de ce livre, on peut dire vraiment en toute simplicité que Dieu n'a pas honte des dialogues amoureux, même les dialogues empreints du plus grand érotisme qui soit, parce qu'il y a vraiment un érotisme très puissant dans le Cantique des Cantiques. Et pourquoi personnellement je ne mettrais pas l'allégorie, la relation de Jésus avec son Église ou de Dieu avec son peuple, c'est qu'il y a des images dans ce récit que moi, personnellement, je ne peux pas appliquer à ma relation avec le Christ. Il y a... Ça dépasse vraiment l'entendement. Et puis, bon, après, c'est vrai qu'une parabole, il ne faut pas prendre tous les détails de la parabole. Mais il y a quand même des points qui ne sont pas compatibles, il me semble, avec ce que nous savons du Seigneur. Donc, on va en rester à une interprétation terre-à-terre hein, du Cantique des Cantiques. C'est ça que je suis en train de dire. Alors, les tueurs d'intimité. Alors, vous en avez vu que je voudrais mentionner là. Le verset 2, « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Eh bien, je crois que sur sa vie de couple, on ne peut pas à la fois dormir et veiller. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une maman peut dormir et veiller, une maman entendra le soupir... à peine audible de son enfant en train de dormir, trois chambres plus loin que la chambre des parents. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais dormir éveillé sur sa relation, sur son couple, il y a un problème. Et le manque d'attention et de vigilance est véritablement pour moi, un des tueurs d'intimité les plus forts. Hein, dans le sens où on ne considère plus sa relation avec l'autre comme un engagement prioritaire, comme notre bien le plus précieux. Et si c'est un bien précieux, alors on se donne les moyens d'être attentif, d'être vigilant, d'être vraiment impliqué. Le verset 6, là je vois le deuxième décalage et que vous avez bien relevé, c'est cette notion de décalage. On ne cultive plus l'art d'être dans le temps de l'autre. Et là, je pèse mes mots parce que c'est véritablement un art de cultiver cette nécessité de rester dans le temps de l'autre. Et il y a un autre passage de l'Écriture qui le dit très bien, c'est le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3. Qui nous dit, il y a un temps pour ci, il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour ramasser des pierres, il y a un temps pour jeter des pierres. Il y a un temps pour rechercher l'étreinte, le câlin avec son conjoint, et puis un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Il y a un temps pour se réjouir, et puis un temps pour pleurer. Un temps pour l'amour, et puis un temps pour la haine. 14 couples antithétiques d'une chose et de son contraire. 2 × 7, hein, pour ceux qui aiment les chiffres. Dans la Bible. Et bien, ce texte dit avec bonheur que la meilleure manière de cultiver le bonheur dans une relation, mais c'est a fortiori vrai pour le couple, c'est de veiller à rester dans le temps de l'autre. Si moi je suis dans la joie parce que mon patron m'a augmenté, parce que on m'a dit en début de journée une parole sublime, et cette parole sublime va me maintenir dans un état d'allégresse tout au long de la journée. Et que je rentre à la maison et que je rencontre ma femme qui pendant toute la journée a été harcelée par son patron, harcelée par les enfants qui n'ont pas été sages, et puis la machine à laver qui est tombée en panne, etc. Moi je suis dans la danse et dans la joie parce que je suis dans l'allégresse, et puis ma femme est dans le sentiment d'être abandonnée. Et bien, il y a un décalage. Et je vais vous faire un aveu, tous nos conflits se produisent dans les zones de décalage. Tous, sans exception. Et la meilleure manière de réduire ce décalage, eh bien, c'est de faire tout ce qu'il faut. Et vous voyez que là, ce n'est pas seulement une question d'amour, ce n'est pas une question de désir, mais il y a un mélange d'amour, de désir, de volonté, d'effort, de prise d'initiative, où on fait ce qu'il faut pour ne pas vivre à contre-temps. Hein. Ne pas vivre à contre-temps. Et les décalages sont des tueurs d'intimité. Hein. Et vous avez vu dans le couple, hein, il y en a un qui fait la bringue avec ses amis et l'autre qui est en train de dormir. Hein. Elle enfin ouvre la porte parce qu'elle en a marre de l'entendre frapper. Alors, j'exagère un peu en disant ça. Et puis il a tourné le dos, voilà, les décalages. Hein. On se court sans cesse après, sans possibilité de se rencontrer. Et alors la vie moderne dans laquelle nous vivons est une vie qui suscite les décalages, en permanence. Et si en tant que couple, on n'est pas attentif à ça, eh bien ça c'est un véritable tueur. Et vous savez, j'utilise le mot tueur à volonté. Hein. Les tueurs, hein, ils n'ont pas de pitié. Hein. Ils n'ont pas de sentiments. Hein. C'est des méchants. Hein. C'est des pas gentils. Hein. Et puis nous, on est toujours très tendres. Hein. Et puis les tueurs ne nous font aucun cadeau. Et dans la relation, c'est important. Puis verset 3, vous l'avez tous vu, on n'a plus envie de faire d'efforts. La fatigue, le stress, le découragement. Ça, alors pour des raisons qui ne dépendent pas que de nous, hein, mais vraiment, ça tue aussi la relation. Alors, quand l'intimité est gaspillée, vous l'avez vu, eh bien on a mal et on se fait mal réciproquement. On s'expose à des souffrances, à de la violence intérieure, quand elle n'est pas extérieure, voire physique. Et je pense que ces gardes obtus et brutaux hein, qui rencontrent la Sulamite sont véritablement l'illustration de cette violence que génère une relation gaspillée. Et c'est vrai qu'elle se met en danger en partant à sa recherche. C'est vrai. Mais c'est aussi une de ses qualités, parce qu'on verra tout à l'heure que c'est aussi la condition pour rétablir la relation. Alors bien sûr, quand l'intimité est gaspillée, c'est le sentiment d'abandon. On se perd l'un l'autre. Et vous savez, quand je discute avec des couples, c'est souvent la question que je leur pose face à la situation qu'ils me décrivent. Dites-moi, quand était l'avant et quand était l'après? À quel moment vous vous êtes perdu? À quel moment vous vous êtes perdu? Vous savez, si un couple arrive à faire cet effort de repérer l'avant de l'après, et qu'est-ce qui a entraîné cette perte l'un de l'autre? Ils ont déjà une bonne partie. Non pas de la solution, mais en tout cas de ce qui va pouvoir les emmener vers une possible solution. Parce que la vie à deux est terrible. Hein. Pourquoi la vie à deux est terrible? J'observe que dès le premier jour du mariage, on constate plusieurs choses. La première chose qu'on constate, c'est que monsieur ou madame, les deux, changent. On change. Parce qu'on n'est jamais statique dans ce que l'on vit. Et on change dans un monde qui change lui aussi. Je faisais remarquer à Martine dernièrement qu'on s'est marié avec le début de l'ère papale de Jean-Paul II. Et que nos 33 ans de mariage ont été marqués par la gouvernance de ce pape. Et quand vous comparez le monde de 1977 au monde de 2010, on n'a pas l'impression d'être dans le même monde. Et ce monde a terriblement changé. Et non seulement ce monde extérieur change, mais mon monde intérieur change. Et nous changeons, Martine et moi, pas à la même vitesse, pas au même rythme, pas dans la même direction, et pas dans le même sens. Et l'idée de maintenir tout ça dans une évolution qui soit maintenue, contrôlée, eh bien, c'est tout le travail des couples, quoi. Et il arrive que parfois, dans ce monde qui change en permanence, mon monde intérieur et le monde extérieur, eh bien, on se perde l'un l'autre. On se perd en route. Et là, quand l'intimité est gaspillée, bien c'est la nostalgie des occasions manquées, des rencontres et des promesses manquées. Et la souffrance de la déception, la souffrance de la désillusion. Et ça, il faut aussi en prendre conscience et préférer, je vais le dire tout à l'heure, préférer faire ce qu'il faut pour éviter ces souffrances-là. C'est important d'être dans cette logique-là. Hein. Personne n'aime souffrir et personne n'aime s'imposer des souffrances. Hein, qui sont. Mais voilà, faire ce qu'il faut pour ne pas vivre, cela. Et bien sûr, quand l'intimité est gaspillée, l'amour est malade, mais parfois aussi lessivé. Alors, qu'est-ce qui ramène l'intimité? Eh bien, c'est le verset 5. « Je me suis levé. » Vous voyez, la rupture par rapport à quelque chose que l'on fait depuis toujours, depuis tout le temps. Et on a constaté que cette chose que l'on fait depuis toujours, depuis tout le temps, n'est pas bonne, nous conduit dans des impasses émotionnelles, relationnelles, et c'est pas bon pour nous. Et on persévère à faire toujours la même chose, hein, sans rupture. Et bien, à un moment, il faut rompre avec quelque chose. Il faut rompre avec une attitude. Il faut rompre avec un comportement. Il faut rompre avec la routine. Je me suis levé. Vous savez, ça me fait penser à l'apôtre Pierre, alors dans un tout autre domaine, dans Acte 10, la vision de la nappe qui descend avec tous les animaux impurs de la terre. Et là, la déclaration stupéfiante de Dieu à l'endroit de Pierre. « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Et vous vous rappelez de la réplique de Pierre ? « Jamais de la vie. Jamais de la vie, Seigneur. » Alors pourquoi jamais de la vie ? Parce que je suis juif. Parce que c'est toi qui m'as instruit juif. C'est toi qui m'as enseigné. C'est ta parole qui m'a appris à faire la différence entre les animaux purs et les animaux impurs. Et je ne peux pas imaginer que maintenant, tu me demandes de manger des crapauds, des vers de terre, des limaces. Enfin, tout ça. Essayez d'imaginer tous ces animaux impurs qui grouillent dans cette nappe. Et la réponse du Seigneur, Pierre, ce que j'ai déclaré pur, ne le vois pas comme souillé. C'est passé, ça. C'est terminé. Et si Pierre, tu n'es pas capable de sortir de ta culture, de ta tradition, de ta religion, de tes croyances, eh bien l'enjeu qui est là, tu n'en feras pas partie. Et quel est l'enjeu? C'est nous, les non-juifs. Et pour que Pierre puisse aller évangéliser les non-juifs, eh bien Dieu vraiment utilise des gros moyens. Alors, des gros moyens. Et quand Pierre arrive chez Corneille, vous lisez ces chapitres qui sont des chapitres lumineux dans la Bible. Mais qu'est-ce qui se passe quand Dieu commence à faire un travail dans la vie d'un homme et que cet homme est capable de sortir de sa mentalité, sortir de la routine, sortir de ce qu'on a toujours cru, fait, et parfois mal fait, parfois même bien fait. Il faut que tu sortes de tes croyances. Et c'est exactement là, à un niveau vraiment plus bas, je me suis levé. Hein, la décision de prendre l'initiative, de se battre, de se lever à nouveau pour son couple, de ne pas rester aux tentatives manquées, hein, de vivre la promesse d'intimité comme une aventure de couple, hein, qui peut toujours se réaliser. Le verset 10, le souvenir, le rappel du premier amour, le rappel de l'admiration dont on a parlé aussi un peu tout à l'heure. Le rappel de la jubilation et de la folie du début. C'est très porteur dans un couple quand on se souvient de ce qui a été la genèse de notre histoire, la genèse du couple. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, cet homme, cette femme, je l'ai admiré comme pas possible. Et puis, dans ce rappel du premier amour, un peu le refus de la victimisation. Hein, on change son regard sur l'autre. On rentre dans l'agapé. Et vous l'avez très bien vu également, où on peut commencer à aimer, même si l'autre nous déçoit sur un certain nombre de points. Les bonnes questions. Verset 9. Reconnaître tout le potentiel qui reste encore à découvrir en l'autre. Même si j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ma femme, de mon mari, se rappeler qu'il y a quelque chose encore à découvrir sur l'autre. Et ça, ça implique qu'on sache se remettre en question, sans orgueil, ni fierté mal placée. Les bonnes questions qui nous amènent à réfléchir, c'est ça l'idée. Et c'est important de réfléchir. Alors après, je vous laisserai cette présentation. Hein. À chaque fois que j'ai fait l'exercice, il y avait toujours beaucoup d'idées qui étaient mentionnées. Hein. On ne va pas faire tout ça. D'autres conséquences également. D'autres questions, d'autres idées, pardon, qui ramènent l'intimité. Hein. Faire le premier pas, admiration, prendre du temps. Et les questions qu'on peut se poser individuellement dans son couple, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour débloquer la situation et sortir de l'impasse? On veut tous durer, et on veut durer d'une manière qui soit satisfaisante pour l'un et pour l'autre. Je vais m'asseoir, je vais réfléchir. Est-ce que je dois changer sur un point? Est-ce que je dois demander pardon sur un autre point bien précis? Est-ce que le fait qu'on se soit perdu en route, j'y suis pour quelque chose, et qu'avons-nous fait ou pas fait pour en arriver là? Dans le premier point, c'était « dois-je demander pardon ?» Dans le deuxième, c'est « est-ce que je dois offrir mon pardon sur un point précis ?» Un point qu'on a peut-être maltraité. Que dois-je faire pour me rendre agréable et séduisant pour l'autre? Je te fiancerai à moi pour toujours, hein, dit le Seigneur à Jérusalem. Comment donner envie à l'autre de venir vers moi? Comment le conduire sur le chemin de mon cœur, hein? Comment rejoindre le sien? Et j'invite souvent les couples à se mettre à table. Mais c'est vraiment se mettre à table. Il y a tellement de choses qui se passent à table. Si vous allez voir votre conjoint et vous lui dites « Écoute, voilà, on est mariés depuis tant d'années, j'ai l'impression qu'on s'est perdu en route. Est-ce que tu veux t'asseoir avec moi pendant 5 minutes et au-delà de tout ce qu'on a déjà dit, tout ce qu'on a déjà fait sur ce sujet, tout ce qu'on a déjà envisagé, est-ce que tu veux réfléchir avec moi sur cette question? Où est-ce que l'on s'est perdu ?» Et puis là, on s'assoit. Et on parle. Et là, pour que nos couples durent, voilà, j'aimerais introduire cette idée, hein, que nous devons et nous sommes invités à vivre notre vie de couple comme une aventure à deux. Alors, ça peut sembler superficiel de le dire comme ça, hein, mais voilà, la définition que je donne au mot « aventure », et je donne cette définition depuis ma rencontre avec un certain Christian Picard. Picard, ce Suisse qui a fait le tour du monde en 3 semaines en ballon. Et j'ai eu l'occasion d'assister à une de ses conférences, et ce monsieur Picard qui me dit, vous savez, faire le tour du monde en 3 semaines en ballon, c'est à la portée de tout le monde. Ah bon? C'est à la portée de tout le monde. À 2 conditions. C'est que on ne négocie pas avec le vent. Hein, on s'adapte au vent. Et là, j'y ai vu une très belle image pour ma vie de foi. Hein. Le vent, c'est le vent. Hein. Il va où il veut, comme il veut. On ne sait pas d'où il vient. Et quand on veut faire le tour du monde en 3 semaines en ballon, on a intérêt de bien comprendre comment fonctionne le vent. Et pas essayer d'adapter le vent à nous, mais d'adapter nous au vent. Et puis la deuxième, voilà, c'est toujours prendre le risque de faire des choses que l'on n'a jamais faites. Et il nous a raconté tous les échecs qu'il avait essuyés avant de pouvoir faire ce tour du monde en 3 semaines. Voilà, c'est essayer même si on n'est pas sûr que ça va marcher. C'est faire des choses que l'on n'a pas forcément apprises. Et il me semble que c'est souvent comme ça que le Seigneur fait avec nous. Et que trop souvent, c'est parce que nous sommes coincés dans nos manières de faire routinières et qui nous ont démontré que ce n'était pas efficace. Et on continue vraiment constant dans l'erreur, réfractaire à l'expérience, à refaire, à continuer à faire des choses qui ne marchent pas. Eh bien, l'esprit d'aventure, c'est essayer des choses qu'on n'a jamais essayées, en couple, à deux. Parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas si ça va marcher. Et vous savez, c'est souvent dans cet esprit d'aventure que j'entraîne, que je cherche à entraîner tous les couples dont je sens encore qu'il y a une chance pour qu'ils se remettent ensemble et qu'ils puissent vraiment refonctionner bien ensemble. Voilà, faire des choses que l'on n'a pas forcément apprises. Et là, l'aventure commence.